Hashem, shalom ouvracha. Je suis heureux de vous retrouver. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'un très grand homme qui nous a quittés aujourd'hui, en la personne du Rav Eliyahu Bakshi Doron, qui nous a quittés hier dans la nuit. C'était un immense Talmid Chacham. On va essayer de parler de lui, Bezrat Hashem, en détail. Et ces dernières années, à chaque fois qu'il y avait des questions compliquées qui m'étaient posées et dans lesquelles on avait besoin d'avoir un géant de Torah qui puisse trancher, j'avais très souvent affaire à lui. Parfois, je consultais aussi le Rav Steinbourg, parfois le Rav Asher Weiss. Mais très souvent, je l'appelais à lui pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer, Bezrat Hashem. Pour moi, personnellement, ce Rav-là, c'était non seulement un Rav, c'était aussi un peu presque comme un père. C'était quelqu'un auquel je faisais complètement confiance. Je savais que je ne le dérangeais jamais, bien qu'il était extrêmement préoccupé. Vous imaginez bien, en tant que grand rabbin d'Israël, ancien grand rabbin d'Israël, et malgré tout, c'était l'impression qu'il donnait toujours. Un jour, il y avait dans un grenier un père et son fils qui se trouvaient. Et c'était l'obscurité la plus totale. Ils étaient obligés de se réfugier là-bas. Et à un moment donné, le père, Baruch Hashem, il trouve une bougie. Alors, il se dit, génial, il y a une bougie. Heureusement, il trouve aussi une allumette. Il allume la bougie. Et au bout d'un moment, il arrive donc à profiter de la lumière de la bougie. Il étudie la Torah avec son fils et il discute. Le père regarde son fils, le fils regarde son père. C'est la grande émotion, tout se passe bien. Au bout de 2 heures, 3 heures à peu près, la bougie s'éteint. Au moment où la bougie s'éteint, le père se met à pleurer. Maintenant, ils sont à nouveau dans l'obscurité. Alors, le fils regarde son père, il dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Tu vois pas que la bougie, elle s'est éteinte ?» Il dit « D'accord, mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Comment tu veux que je pleure pas ? La bougie s'est éteinte. » Alors le fils il dit à son père « Mais papa, cette bougie, elle a servi longtemps. Regarde, une bougie, c'est censé rester allumée pendant 2 heures. Elle est restée allumée pendant 2 heures. Oh, pourquoi tu pleures ?» Et le père il dit à son fils « Mais non, je pleure pas pour la bougie. Je pleure pour nous. Parce que maintenant, on est dans l'obscurité. » Alors c'est un petit peu l'impression qu'on ressent quand on a le Rav Bakshi, qui malgré tout était quand même encore jeune, il avait 79 ans, qui nous a quittés. Et quand on comprend ce que ça signifie, l'un des très grands décisionnaires sfaradim qui nous quitte, c'est quelque chose de géant, de gigantesque. On avait à l'époque le Rav Ovadia Yosef. Et on espérait vraiment qu'il nous accompagnerait jusqu'à la venue du Mashiach, parce qu'on avait besoin de lui. Et il nous a quittés. Après, on s'est reposé un petit peu, entre guillemets, sur le Rav Bakshi Doron, qu'on avait besoin de lui, il était toujours là. Quand on avait des questions, il était toujours là. Et lui aussi, il nous a quittés. Ces dernières années, il se sentait très très mal. Et il nous a quittés. J'aimerais vous parler, Bezrat Hashem, de 3 points très, très intéressants à propos du Rav Bakshi Doron, qui, à mon avis, vont bien montrer c'était qui ce Rav. Il y a écrit « Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed ». Sur 3 choses, le monde se tient. C'est quoi ces 3 choses? Torah, Avoda et Gmilut Hasadim. C'est une Mishnah très connue, on la connaît tous. Torah, c'est la Torah. Avoda, d'une façon générale, on explique que c'est la Avodat Hashem qui est la Tfila, Avodat Shebalev. Et Gmilut Hasadim, c'est le Chesed. Le Rav, il incarnait ces 3 dimensions de façon parfaite, encore plein d'autres dimensions, on en parlera un petit peu, Bezrat Hashem, mais déjà ces 3 dimensions de façon parfaite. C'est quoi d'abord Torah? Le Rav Bakshi Doron, il se spécifiait de façon vraiment catégorique par rapport à beaucoup d'autres rabbanim dans sa connaissance, mais plus dans sa perception de la Torah. Il y a beaucoup de rabbanim, des rachei yeshivot, à très très haut niveau, qui peuvent faire beaucoup de pilpoul. Ils font du pilpoul, ils posent des grosses questions, ils donnent des bonnes réponses. Ils ont une intelligence vraiment incroyable. Mais ils n'arrivent jamais à la halakha. Ils ne tranchent pas à la halakha. J'allais dire, la halakha ne les intéresse pas tellement. Il y a d'autres rabbanim qui sont à fond dans la halakha, mais ils ne sont pas dans le pilpoul. Alors là, la chasse, c'est juste un tel a dit comme ça, un tel a dit comme ça, un tel a dit comme ça. Bien sûr, il faut un minimum de pilpoul. Mais ça s'arrête là. Le Rav Bakshi Doron, qui a étudié à la yeshiva de Hevron, une des grandes yeshivot litaïot, il a réussi à faire les deux. Si vous ouvrez un petit peu ses livres, Shut Binyan Av, vous allez voir de quelle façon il traitait chaque sujet, de façon précise. Il abordait tous les points du sujet. Il n'amenait pas tellement de références. Les références, ce n'était pas son fort à lui. Mais par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il prenait la sugya, il la décortiquait. Et c'était extrêmement intéressant. J'ai assisté moi-même, parce que j'ai étudié pendant plusieurs années dans l'un de ses kolélim. Et j'assistais à des cours qu'il donnait. C'était vraiment des cours d'un très, très, très haut niveau. Un très haut niveau, mais sans jamais trop se perdre, tellement qu'il voltige haut. Toujours, c'était, il restait sur le pchat, mais d'un très, 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 très haut niveau. Ses cours de paracha, vous pouvez regarder aussi son Binyan Av, le Sefer qu'il a écrit sur la paracha et les fêtes. Pareil, c'est un livre, ce n'est pas simplement des petites histoires. Allez, je vais raconter une histoire un tel, une petite histoire un tel, une petite histoire un tel. C'était toujours un raisonnement. Tout est extrêmement bien ficelé, une introduction, une conclusion, des questions qui sont répondues grâce à tel Midrash, grâce à tel Gaon de Vilna, grâce à tel ceci et tel cela. C'était vraiment une Gaonout. Donc déjà en connaissance de Torah, le Rav Bakshi Doron, et ça tout le monde le dit, tout le monde le dit, les enfants du Rav Ovadia, je les ai déjà entendus dire à propos du Rav Bakshi Doron, que lui il a réussi à concilier le Pilpoul Ashkenaz et le Psak Sfaradi. Donc ça c'était le premier point. Mais en dehors de ça, il avait des épaules très larges, au sens bien évidemment figuré du terme. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur quelquefois de dire ça, on va autoriser, parce que ça, c'est nécessaire et ça, il faut autoriser. En dehors de ça, il a beaucoup, beaucoup aimé la Torah. Quand on parle de Torah, ce n'est pas simplement être un grand Talmid Chacham et dédaigner la Torah. Le Rav Bakshi, il aimait énormément la Torah. Toute sa vie, il s'est tué. Il a voyagé à l'étranger des tas de fois. Pourquoi? Pour enseigner la Torah, pour diffuser la Torah. Et la chose la plus importante qu'il avait à ses yeux, c'était les yeshivot, les kolélim. Son fils, et au passage, je le dis déjà d'emblée, deux de ses enfants sont des amis à moi. Son fils, le Rav Ben Sion Bakshi Doron, son fils, le Rav Yitzhak Betzael Bakshi Doron, c'est des amis à moi, je les connais très très bien. Vraiment des gens avec des midot, comme on en voit très très rarement. J'en connais des fils de Talmidei Chachamim, mais de tels midot, d'une part, toute la journée en train d'étudier la Torah, dès qu'ils ont un moment en train d'étudier la Torah. Et d'autre part, quelle modestie. Pourquoi je vous disais ça? L'un de ses fils, Rav Bakshi Doron, il a ouvert un Talmud Torah en Israël. Un Talmud Torah, c'est une école dans laquelle les enfants, les jeunes étudient. Jusqu'à présent, les bons Talmudé Torah, entre guillemets, c'était les Talmudé Torah ashkénazes. Il y avait des super bons Talmudé Torah avec beaucoup de Yirat Shamayim, des super bonnes familles qui mettaient leurs enfants là-bas, etc., etc. Mais chez les Sfaradim, c'était un petit peu, entre guillemets, un petit peu un moins bon niveau. Le Rav Bakshi Doron, Rav Ben Sion Bakshi Doron, il dit c'est pas possible comme ça, c'est pas possible, parce que nos enfants Sfaradim, dans certains Talmudé Torah Ashkenazim, on les refuse, et c'est pas possible que nous, on soit logés à une autre enseigne. Il a essayé d'ouvrir un Talmud Torah. Talmud Torah, Torat Imecha. Ce Talmud Torah, c'est aujourd'hui le meilleur Talmud Torah sfaradi en Israël et l'un des meilleurs Talmud et Torah aussi, Bichlal, aussi bien sfarad qu'ashkénaze. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines, ce n'est pas pour rien que j'ai mis mes enfants dans ce Talmud Torah-là, c'est vraiment le meilleur, l'un des meilleurs Talmud et Torah. Il a ouvert une yeshiva ktana, qui s'appelle Torat Eliyahu, au nom du Rav Bakshi Doron, Eliyahu Bakshi Doron. Et cette yeshiva aussi, un très très bon niveau, tout. Et tout ça, c'était grâce au Rav Bakshi. C'est le Rav Bakshi qui a donné la force à ses enfants. C'est le Rav Bakshi qui les a aidés financièrement à faire tout ça. Le Rav Bakshi, il avait un grand amour de la Torah. Chaque fois qu'il y avait une fête dans la yeshiva, au Talmud Torah, un petit quelque chose, le Rav, il venait, il se déplaçait. À la fin de sa vie, il était en fauteuil roulant, il était faible, il n'avait pas la force. À chaque fois, on demandait au Rav Ben Tzion, il va venir, ton père ou pas? Il disait, je ne sais pas, il a dit qu'il va faire tous ses efforts. Et à chaque fois, finalement, il venait. C'était vraiment la chose la plus fabuleuse à ses yeux. Et à chaque fois, il me demandait comment ça va tes enfants et comment ils grandissent, à quelle classe ils sont. C'était quelque chose qui était pour lui extrêmement important. Il aimait énormément, énormément la Torah. Ça, c'est à la Torah. Véa la Avoda. La Avoda, on a dit, quand on parle de Avoda, on parle principalement de Tfila. Le Rav Bakshi Doron, il a hérité ça, entre guillemets, de son beau-père. Son beau-père, c'était un très, très grand Mekoubal. Il s'appelait le Rav Lopez, Abshalom Lopez, le Rav de la ville de Rakko. Et ce Rav-là, il avait toujours fixé que l'une des choses les plus importantes, c'est de prier le matin, tous les jours, au Netzachama. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il a tellement insisté sur ça. Il disait, écrit en Shulchan Aruch, que c'est la chose la meilleure à faire, de prier au Netzachama. Toute sa vie, il a insisté sur ça. Et bien, son gendre, le Rav Bakshi Doron, le Rav qui s'est marié, son premier mariage avec la fille du Rav Lopez, un jour elle va décéder, elle va se remarier. Et bien, le Rav Bakshi, toute sa vie, il a prié au Netzachama. Parfois, il était à l'étranger. Ce n'est pas évident d'avoir des minyanim au Netzachama à l'étranger. Je me rappelle une fois quand j'étais enfant, il était venu pour un gala en France. Et je me rappelle, à la fin du gala, le Rav de la communauté avait dit, on a le Rav Bakshi avec nous, il nous a fait l'honneur de venir pour notre gala. Le Rav a l'habitude de prier au Netz. Est-ce qu'on peut être sûr demain qu'on aura 10 personnes qui viendront à telle heure, je ne me rappelle plus quelle heure c'était, un horaire vraiment impensable, pour pouvoir que le Rav puisse avoir cette fille-là au Netz Sahama. Et il y tenait beaucoup, beaucoup, même à la fin de sa vie, quand il était très, très, très fatigué. Et bien encore, il priait au Netz Sahama. Il y a vraiment quelques rares fois où il priait le Shabbat matin, quelquefois, il était trop fatigué, il priait un petit peu plus tard. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il priait au Netz Sahama. Parfois, il s'endormait pendant la tefila tellement qu'il était fatigué. Le Rav, il avait à la fin de sa vie des dialyses 3 fois par semaine. Ça le rendait très, très faible, très fatigué. Mais malgré tout, tant qu'il pouvait, il priait au Netz Sahama. Il était tout le temps en train de prier le Rav. À chaque fois qu'il arrivait quelque part, s'il devait donner un cours et qu'il y avait 5 minutes avant le début du cours, il ouvrait des Tehillim. Une fois, il est venu à la Brit Mila de mon fils, il était le Sandak, il a lu des Tehillim. Le temps que ça commence, il a lu des Tehillim. Et c'était très beau de le voir prier, surtout quand il était Sandak et qu'il faisait le Shema Israël, qui recevait sur lui la Kabbat ou Malchut Shamaim. C'était beau de le voir comme ça, comment il était proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'était indéniablement quelque chose d'important pour lui. Je me rappelle que lorsqu'il allait pour ses institutions ramasser de l'argent, et quelquefois il y avait un grand gala ou alors une grande réunion qu'il avait, une réunion très importante qu'il avait avec un donateur aux États-Unis par exemple, et sa réunion a été prévue par exemple à 10h du matin. Il disait à tous les avrechim du collège, je vous demande de 10h à 11h, étudiez de toutes vos forces, essayez de ne pas vous interrompre une minute, parce qu'il n'y a que votre étude et que votre tefila qui peut aider. Et il disait, priez pour moi, parce que j'ai grandement besoin de vous. Ça, c'était l'amour que le Rav avait pour la tefila. Maintenant, j'en arrive à la troisième dimension, celle de Gmilut Chassadim. À propos de Aaron à Cohen, lorsqu'il est décédé, il est écrit, il est écrit que tout le peuple juif a pleuré la mort de Aaron pendant 30 jours. Quand Moshe Rabbeinu est décédé, Moshe Rabbeinu qui était quand même pas moins grand, il est écrit Vaïfku Bnei Israël. Il n'y a pas écrit tous les Bnei Israël ont pleuré. Il y a écrit les Bnei Israël ont pleuré. Pourquoi à propos d'Aaron on insiste tous les Bnei Israël, or qu'à propos de Moshe on dit les Bnei Israël? Rashi dit sur place, Kol Bet Israël, à propos d'Aaron, ça a été écrit Kol Bet Israël, Ha'anashim, Ve'anashim, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pourquoi? Les fils à Aaron, Rodef Shalom. Parce qu'Aaron, il était toujours en train d'être en quête de Shalom. Il faisait tout pour amener la paix. Ou Matil Ahava Ben Maalem Eriva. À chaque fois qu'il y avait des disputes, il était là avec sa sagesse, avec sa patience, pour réussir à mettre un petit peu d'ordre. Ou Benish Ve'ishto. Il était capable de mettre le Shalom entre les hommes et leurs femmes. Au sein des foyers, quand il y avait des disputes, chose qui, visiblement, déjà à l'époque arrivait, eh ben, Aaron était toujours là pour réussir à mettre le shalom. Donc, du coup, quand Aaron est décédé, on a senti un manque considérable. Qui maintenant va nous mettre le shalom? Qui maintenant va réussir à résoudre les problèmes? Donc, à propos de Moshe, ok, Moshe, il est mort. Beaucoup de gens ont pleuré, pas tous. À propos de Aaron, tout le monde a pleuré. Je peux vous dire quelque chose. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui, quand ils ont entendu que j'étais en contact très proche avec le Rav, ils m'ont dit « Ah, Rav Bakshi Doron, tout le monde m'a toujours dit qu'est-ce que je l'aimais ce Rav, qu'est-ce qu'il est agréable, qu'est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il est gentil. » Tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés, ça pouvait être même quand j'étais en vacances à Tzfat, un chauffeur de taxi qui me prend et qui, pour une raison ou pour une autre, on en arrive à parler du Rav Bakshi Doron, il dit « Mais je me rappelle de lui !» C'était le Rav Arashi d'Israël, le grand rabbin d'Israël avant le Rav Mordechai Eliyahu. Mais je me rappelle très bien de lui. C'était un... Non, après le Rav Mordechai Eliyahu. C'était un très grand Rav. C'était un Rav qu'on appréciait. C'était tout le monde l'a aimé. Les Juifs religieux, les Juifs un petit peu moins religieux. Tout le monde l'a aimé. Et l'une de ses grandes sagesses au Rav Bakshi Doron, c'est qu'il s'est toujours écarté de la Mahloket. Jamais, toutes les fois où je l'ai vu, je l'ai entendu, je ne l'ai jamais entendu parler contre quiconque. Il faisait toujours tellement, tellement, tellement attention à ne pas parler contre personne. Toujours, toujours. Et je me rappelle une fois, au moment où il y avait des élections, il y avait deux partis qui étaient en train un petit peu de se faire concurrence. Il y avait le parti Chasse, et il y avait un autre parti avec le Rav Mazouz et Ishaï et machin, etc. Et à ce moment-là, il y a des gens de Chasse qui ont dit « On va organiser une soirée ce soir et on aimerait que tous les rabbanim francophones d'Israël, de Yerushalayim, viennent et participent pour renforcer Chasse. » Maintenant, c'était à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait des religieux qui étaient dans un parti, d'autres qui étaient dans l'autre parti, etc. Et moi, je ne voulais vraiment pas prendre parti, bien que j'ai téléphoné au Rav Bakshi Doron. Il m'a dit, la vérité, laisse tomber, pourquoi tu as besoin d'aller? Ne prends pas part, à quoi ça sert? Tu vas entrer dans une marloquette pour rien. Laisse tomber, toi, tu voteras pour qui tu penses. C'est pas la peine maintenant de toute sa vie, le Rav a cherché à éviter la marloquette à tout prix. Donc, tout le monde l'a aimé. Et quand je dis que c'est un rave de Gmilout Chassadim, j'aimerais que vous touchiez du doigt un petit peu, c'était quoi la Gmilout Chassadim du rave? J'ai entendu de plusieurs personnes, de mes propres oreilles, donc je ne rêve pas, des gens qui m'ont raconté et qui m'ont dit, j'étais dans la rue en train de faire du stop. En Israël, c'est très à la mode. Les gens qui n'ont pas la voiture, ou les gens qui veulent économiser le prix du billet de bus, ou les gens qui vont attendre le bus pendant trois quarts d'heure et qui ne veulent pas, ils font du stop. Il y a Baruch HaShem des gens, des grands Baal et Chesed, qui à chaque fois, quand ils peuvent, ben ils s'arrêtent. Il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté, un jour j'étais dans la rue, je faisais du stop. À un moment donné, il y a une super belle voiture qui s'arrête. Ok, si c'est ça qui me revient, je veux bien. Il dit, j'ouvre la porte, donc j'ouvre la porte, je m'assois. Qui je vois à côté de moi? Le Rav Bakshi Doron. Le Rav Bakshi Doron, depuis le moment où il est devenu Rav Rachi Israël, il avait un chauffeur privé. Eh ben, il avait demandé à son chauffeur privé, quand tu peux, arrête-toi. Arrête les gens qui veulent monter en voiture. Et ces gens, ils me disent, mais je ne sais même pas où me mettre. Moi, j'étais à côté du Rav Bakshi Doron en personne pendant un trajet d'un quart d'heure, à côté du Rav Bakshi Doron. Maintenant, la vérité, mettons-nous un tout petit peu à la place du Rav Bakshi Doron. C'est le grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, avec la redingote. D'abord, il a du temps. Il a du temps pour le temps qu'on arrête la voiture, qu'on demande où tu as besoin d'aller. Ah non, là-bas, bon d'accord, non. Il a du temps pour ça, le Rav Bakshi. A priori, il n'est pas censé avoir de temps pour ça. En dehors de ça, c'est pas de son cavote tellement, dans sa voiture privée de la Médina, avec les gyrophares et compagnie, de faire monter maintenant quelqu'un, on ne sait même pas c'est qui. Et si ce quelqu'un, c'est un lourd et qui passe son temps à lui parler, lui faire perdre son temps, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est grand rabbin d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Et ben, plusieurs personnes ont témoigné que le Rav faisait. Quand j'ai raconté ça tout à l'heure à mon fils, il m'a dit, ben oui, non, il m'a dit, mais non, ce n'est pas Rav Bakshi qui s'arrête à chaque fois pour prendre du stop, c'est Rav Ben Sion. Rav Ben Sion, je vous disais, c'est le fils du Rav Bakshi Doron. Le Rav Ben Sion Bakshi Doron, je vous disais, qui a ouvert maintenant une yeshiva, à chaque fois qu'il peut, il s'arrête et il prend en tremble des gens. Il prend en stop des gens. Alors j'ai dit à mon fils, ouais, ben, tu vois de qui il a appris le fils. Il a appris de son père à faire cette chose-là. Donc ça, c'est un exemple, à mon avis, qui me semble être très, très, très parlant. Le vendredi soir, et ça, je vous le dis aussi de connaissance, parce que celui qui est marié avec la petite fille du Rav Bakshi Doron, c'est un très bon ami à moi, qui s'appelle Nahum Adika. Et très souvent, il se trouvait donc chez le grand-père de sa femme, chez le Rav Bakshi Doron. Il me dit tous les vendredis soirs, il y a des invités à table. Il me dit, c'est qui les invités? C'est tout type de personnes qui n'ont pas où passer Shabbat, des vieux, des vieilles personnes, parfois des jeunes qui sont pas mariés, qui n'ont pas où passer Shabbat. Et puis comme sa femme, en plus, elle donne des cours dans tout type de michtalot, etc., elle fait venir tous les repas. Il y a des invités, parfois le Rav, il ouvre des bouteilles de vin en l'honneur de ses invités, etc. Tous les repas. À nouveau, c'est pas, je ne sais pas qui, c'est le grand rabbin d'Israël. Et puis quand il invitait des gens, il leur parlait de ce dont il voulait parler. Si c'est des gens qui étaient des gens de Talmidei Chachamim, il leur parlait beaucoup de Torah. Si c'est des gens un petit peu moins Talmidei Chachamim, il leur parlait de ce dont il voulait parler. Un homme qui était, pshuto ke mashmao, un homme de chesed. Il a fait abnégation de lui-même, de son kavod, de son honneur, de tout. Tout ça juste une chose, pour faire du chesed. Ça s'appelle du chesed. Quand on téléphonait chez le Rav, plein de fois, il répondait lui-même. D'abord, je le sais parce que plein de fois, j'appelais et il me répondait lui-même. Ensuite, je le sais parce qu'une fois, j'étais chez lui, le téléphone a sonné, il a répondu. Et vraiment, avec beaucoup de patience, non, ma femme n'est pas là. L'autre, il lui dit, combien de temps elle va venir? Je sais pas, peut-être dans 1 heure à peu près, quelque chose comme ça. Ah d'accord, merci beaucoup. Le Rav, comme ça, en toute simplicité, vous imaginez, l'un des Gdolei Israël, l'un des grands rabbanim des Eretz Israël, en toute simplicité, il se lève, il répond, on lui fait perdre 2 minutes comme si c'était une secrétaire, mais non, lui, c'est un homme de chesed. Et rien ne le dérange. Le Rav, il se déplaçait pour aller réjouir des gens. Quand il avait des élèves qui se mariaient, des élèves qui faisaient des bar mitzvah, la bar mitzvah de leurs enfants, la bar mitzvah de mon fils, il est venu le Rav Bakshi Doron. À celle du deuxième enfant, il était déjà très malade, il n'a pas pu venir, mais après les gens m'ont dit, plusieurs fois dans la même journée, il a dit aujourd'hui je vais moi à la bar mitzvah du fils de Cohen Arazi. Finalement, il n'a pas pu venir parce que c'était le jour de la dialyse, il était très fatigué. Mais en tout cas, le Rav, à chaque fois, il essayait de se déplacer et de faire tout ce qu'il pouvait pour venir et pour honorer les gens. Et quand on lui disait, mais ça va, ça y est, tu peux pas, la même journée, hein, tu es quand même un être humain, la même journée aller jusqu'à Akko et après aller jusqu'à Tzfat, ensuite aller dans l'autre bout des Rêtes Israël, tu peux pas. Il disait, ouais, mais c'est mes enfants. Un père, il peut pas refuser. Un père qu'on invite à une simcha, il peut pas refuser. Et ce grand Rav-là, avec toute sa Torah, avec toute son étude, avec toutes ses yeshivot, avec tout, il allait parce qu'un papa, il peut pas refuser. Le Rav, il avait des cranotes de tzedaka. Et ça aussi, j'ai connu de façon très, très précise. Il avait des kérènes de tzedaka. Tout Khatan et Kala qui voulait se marier, il a un kérène de tzedaka. Le Rav, il aide financièrement. Il donne des couvertures de très bonne qualité, des coussins et des oreillers à toutes les personnes qui viennent se marier. Et ça, c'est tellement, tellement de choses. Qui a entendu parler de ça? Je suis sûr que vous tous n'avez pas entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu par hasard, parce que je me trouvais dans son collège. Dans son collège, il y avait quelqu'un qui était responsable de ce gmar. Tellement, tellement de choses il faisait. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y a au moins 10, peut-être plus, je ne sais pas le nombre exact, de Batei Knessiot qui ont été ouverts grâce au Rav Bakshi Doron? Il y a un des riches qui s'appelait M. Safra, un autre riche qui s'appelait M. J'ai oublié son nom, un nom italien comme ça. Ils ont laissé beaucoup d'argent. Ils ont dit, on aimerait qu'il y ait des Batei Knessiot qui soient ouverts. Le Rav, dès qu'il entendait quelqu'un qui voulait ouvrir une synagogue dans un endroit où il pouvait, où c'était bien, c'était une bonne chose. Le Rav disait, je m'occupe de tout l'argent, je m'occupe de tout ça. Ouvre le Beit HaKnesset. Ouvre. Et le Rav, il donnait à chaque fois et il demandait aucun retour. Le nom du Rav n'était pas écrit. Tout était fait en silence. C'était le Rav grâce auquel il y avait le Beit HaKnesset, mais tout avait été fait en silence. Ça, c'était la grandeur du Rav Bakshi Doron. J'aimerais vous un tout petit peu qu'on comprenne peut-être, et entre autres, d'où s'est provenu cela. Une fois, le Rav, quand il venait de se marier avec la fille du Rav Lopez, c'était donc un jeune Khatan, il a posé la question à son beau-père, au Rav Lopez. Il lui a dit, dites-moi, j'ai une question un peu curieuse. Voilà, moi, je suis un vrai R, je passe ma journée à étudier la Torah. J'aimerais savoir, tous les jours dans Shema Kolenu, est-ce que j'ai le droit de prier pour la richesse? Ou est-ce que c'est bien de prier pour la richesse? Est-ce qu'un juif ben Torah, il doit prier pour être riche? Le Rav, il lui a répondu, c'est une lettre qui est très connue, vous pouvez la retrouver si vous voulez, je peux même vous l'envoyer un jour si vous la voulez, une très 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 jolie lettre, je l'ai déjà racontée dans certains cours, Mme Journeau doit se rappeler, Naomi aussi, toutes celles qui viennent au cours régulièrement. Le Rav, il a dit comme ça, il a dit, je vais te dire la vérité, prier pour être riche, bien sûr, le riche, il a la possibilité de faire de la tzedaka, d'accomplir des mitzvot, de faire des choses, parfois il y a même un pouvoir, ces mots, ils sont plus entendus. Bien sûr que tu dois prier pour être riche, mais à une condition. Et écoutez bien ici la beauté de la réponse du Rav Lopez. À condition que lorsque tu seras riche, tu continues à vivre exactement avec le même standing que celui dans lequel tu vivais avant d'être riche. Et si tu me dis, à quoi sert de prier pour être riche? Non. Et tout l'argent que tu reçois, en plus, tu le donnes à la tzedaka, aux pauvres, aux yeshivot, aux machins, aux ceci, aux cela. Comme ça, le Rav lui a dit, prie pour être riche, mais garde le même standing. Si c'est être riche pour toi-même, profiter de l'argent sans arrêt, etc. Non, ça ne sert à rien. Prie pour être riche, pour pouvoir avoir le mérite de faire beaucoup de tzedaka. C'est très beau, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est ça que le Rav disait. Et le Rav lui-même, Lopez, ceux qui l'ont connu, il avait le cinquième de ce qu'il gagnait, il le donnait à la tzedaka. Il avait des enveloppes d'argent sur son bureau. Toute personne qui venait, qui était en nécessité, il lui donnait des enveloppes. C'est quelque chose de très, très fort. Mais le Rav Bakshi, c'est un peu pareil. Le Rav Bakshi, il avait énormément d'argent parce que les gens qui avait des moyens, il lui faisait confiance. Il savait que c'était un homme de vérité à 100%, à 1000%. Il lui donnait beaucoup d'argent à distribuer, etc. Le Rav, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il se servait de son argent pour aider les kolélim et les yeshivot, et pour aider les pauvres, et pour aider toutes les personnes qui pouvaient, les khatanes et les kalotes, pour recevoir des gens, pour tout. C'est ce qu'il faisait. Et lui-même, il vivait dans une immense simplicité. Immense simplicité, son fils, il me dit que sa mère, donc la femme du Rav Bakshi, elle voyageait en autobus. Ce n'est pas parce que genre sa femme du Rav Bakshi qu'elle voyageait en taxi à chaque fois, etc. Elle voyageait en autobus. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il a rencontré le Rav Bakshi lui-même dans un autobus, alors qu'il était déjà grand rabbin. C'était quelqu'un qui vivait avec beaucoup, beaucoup de simplicité. Un jour, je vous raconte une histoire personnelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là. Mais je la raconte en l'honneur du Rav. Parce que tout ce que je vais dire, c'est tellement en son honneur que je veux le dire. Avant que j'aie mon site, je donnais des cours dans plusieurs sites de Torah. Un jour, il y a un élève qui est venu me voir et qui m'a dit, écoutez, il faut que vous ouvriez un site, c'est tellement important, vous pouvez faire tellement de choses, blablabla, blablabla. D'accord. Je lui ai dit, ok, alors quoi ? En cet élève, c'est un perfectionniste. Il faut que tout soit bien fait. Donc, il a appris pendant des mois et des mois, il a trouvé la boîte qui pouvait créer le plus beau site, la façon la meilleure, ceci, cela, etc. Une fois qu'il a vérifié, il m'a dit, voilà, ça coûte environ 10 000 euros. Je lui ai dit, d'où tu veux que je sorte 10 000 euros, moi ? 10 000 euros ? Il me dit, non, mais HM, il va t'aider, HM, il va t'aider. On a commencé à réfléchir. Comment on va pouvoir trouver 10 000 euros ? Et à un moment donné, je lui ai dit, il paraît que le Rav Bakshi Doron, quelquefois, il aime bien aider les choses de Torah, etc. Il m'a dit, ben on y va. Je lui ai dit, non, j'ai hyper honte, moi. Tu me plaisantes ? Il me dit, n'aie pas honte. Et puis, il m'a fait un peu de coaching comme ça. Il m'a coaché pour qu'on aille voir le Rav Bakshi Doron. Je crois que c'est la première personne que j'étais, avant même d'aller voir certains élèves et certaines personnes qui m'ont aidé très généreusement, j'ai été voir le Rav Bakshi Doron. J'étais avec cet élève, on était dans la Lishka, là où le Rav y recevait les gens. On lui a expliqué rapidement de quoi il s'agit, qu'il y a un site de Torah, que les Français ils ont besoin, etc. etc., etc. Il a bien écouté, il m'a posé quelques questions, etc. Immédiatement, il a pris son chéquier. Vous me croirez si vous voulez, je sais que ceux qui viennent m'écouter, c'est qu'ils me croient. Il m'a fait un chèque de 20 000 shekels. Il m'a dit 20 000 shekels, la suite, moi je prends tout le site sur moi, la suite Bezrat Hashem, quand ça avance un petit peu, tu me dis que tu as besoin, je t'écris la suite. Je dis, c'est un miracle, je suis sorti, c'est un miracle, que je puisse avoir un site sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, d'un coup, 20 000. Alors qu'en plus, j'étais dans son collège, il y a des gens qui m'ont dit que la situation était très difficile et qu'il était obligé lui-même d'emprunter de l'argent pour pouvoir payer les avrerim à temps, etc. Mais kitso, c'est ce qui s'est passé. Deux jours, trois jours après, il y a des gens, vous savez, quand il y a des très grands rabbanim, il y a aussi souvent autour d'eux des très grands, je n'aurai pas d'appellation, mais des très grands gens qui veulent profiter de ceci, de cela. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Quand tu as un très grand rave, tu as des gens autour qui veulent te dire qu'il faut payer tant pour avoir une bracha du rave, il faut payer tant. C'est triste à dire, mais souvent c'est comme ça. Bref, il y a quelqu'un qui a entendu que le Rav Bakshi Doron allait ouvrir un site de Torah. Donc immédiatement, il a été le voir, il dit « je vais te l'ouvrir moi ». Comme ça, si je t'ouvre moi, tu vas voir, je te le fais gratuit, mais toi, d'autre part, tu me rends tel service. Bref, des embrouilles, traloïdes, machin, etc. Et le Rav, il m'a dit, bon, finalement, ne le fais pas avec celui que quelqu'un avait prévu, parce qu'il y a quelqu'un qui propose de le faire gratuitement. J'ai dit au Rav, mais non, nous, on a prévu, on a... Bref, il s'est avéré qu'on commençait à rentrer dans des embrouilles, parce que le Rav, il me disait, moi, je te comprends que tu avais prévu de faire avec une boîte, il faut que tu fasses avec eux, mais d'autre part, quelqu'un propose de le faire gratuit, c'est dommage pour les 40 000 shekels. Bref, le Rav, il m'a compris. Et à ce moment-là, j'ai bien réfléchi, j'ai demandé conseil même à mon ami le Rav Louria, j'ai demandé conseil à pas mal de personnes. Ils m'ont dit, écoute, le mieux, c'est que tu dises au Rav Bakshi que Pachout, il y a trop de gens autour qui veulent faire du balagan, trop de gens qui jalousent, trop de gens qui veulent eux-mêmes prendre machin. Dis au Rav Bakshi que tu préfères faire ça sans lui, demande-lui s'il est prêt à recevoir ton argent qui t'a donné, et c'est le mieux. Moi, j'avais hyper honte, je ne voulais pas le vexer, je l'aimais tellement le Rav Bakshi Doron. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir le Rav, je lui ai dit « Votre Rav, s'il vous plaît, regardez, je lui ai expliqué, je lui ai dit, je sais que vous y êtes pour rien, vous m'avez aidé les Shem Shamaim 100%, mais il y a des gens autour, vous voyez, qui commencent à se mêler, qui commencent à dire que c'est le site du Rav Bakshi et que bientôt ils vont dire que c'est son site à lui, ils vous demandent des faveurs, machin. » Je lui ai dit, je sens que ça va mal tourner cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord que votre Rav, s'il vous plaît, que je vous rende l'argent, je vous en... Il m'a dit, mais c'est vrai, mais moi je veux t'aider. Je lui ai dit, oui, je sais, mais regardez, ça va pas bien se passer. Le Rav, il m'a dit, ok, avec plaisir. Je lui ai rendu le chèque. Il n'y a pas eu, depuis ce jour-là, la moindre différence dans son comportement à mon égard. Toujours la même affection. À chaque fois que je l'appelais, comment ça va? Comment tu te sens? Comment vont tes enfants? Quand j'appelais que c'est la rabbinite qui me répondait, pareil, toujours la même affection. Ça s'appelle être quelqu'un qui fait les choses des Shem Shamaim. Quelqu'un, un homme de chesed. Il aide pour aider. Et je vous assure, quand on a écrit, il n'a pas écrit, il m'a pas dit, on écrit le site, la condition qu'il y ait mon nom écrit en grand. Il m'a pas dit, je veux que le site s'appelle Bakshi Doron Academy. Il m'a pas dit ça. Il m'a dit avec plaisir, on fait la chose. 100% les Shem Shamaim, un homme de Chesed qui toujours était là au service des gens, même Kabiachol, au service de ses élèves. Mais plus que ça, quand on parle de Chesed, il y a une appellation de Torah Chesed. Le Torah Chesed al-Leshona. C'est quoi Torah Chesed? Il y a une Torah qui est une Torah de Chesed et une Torah qui n'est pas une Torah de Chesed? Oui, il y a une Torah de Chesed. Il y a une Torah, on étudie juste pour que les gens ils nous embrassent la main, pour que les gens ils nous honorent, pour que les gens ils nous ceci, pour que les gens ils nous cela. Le Rav Bakshi, c'était un homme, sa Torah, c'était une Torah de Chesed. Tous les vendredis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les vendredis pendant des années et des années et des années, il sortait de chez lui, donc avec son chauffeur, il allait rendre visite à sa maman. Il avait une maman qui était âgée de plus de 100 ans. Il allait la voir tous les vendredis. Il allait la voir, il lui embrassait la main, il papotait un petit peu avec elle. Ce n'était pas du tout une dame, à ce qui paraît, très intelligente, mais c'était une dame comme ça, c'est sa mère. Il allait et il lui parlait, lui demandait comment ça va et machin. Jusqu'à son dernier jour à sa mère. Il a été voir. Sa mère est décédée il y a 3-4 ans. Et à part aller voir sa mère, il allait au Kotel. Tous les vendredis, il allait au Kotel. C'est pas quelque chose que les rabbanim font, d'aller tous les vendredis au Kotel. Le rabbi, quand on lui demandait pourquoi tu vas au Kotel, moi personnellement, je l'ai déjà rencontré quelques fois le vendredi au Kotel. Quand on lui demandait pourquoi tu vas, il dit écoute, il y a tellement de gens qui me demandent de les bénir, de leur faire des brachot, de machin. Mais je me sens le devoir une fois par semaine d'aller au Kotel pour prier pour mes élèves, pour prier pour ma famille, pour prier pour tout le monde. Et c'est quoi une Torah Tressed ? Torah Tressed, je vais vous dire quelque chose de très important. Une Torah Tressed, c'est une Torah qu'on essaye de diffuser parce qu'on aime les autres et parce qu'on veut rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu aujourd'hui de son gendre, il disait que le Rav, il avait l'habitude de rapporter une Gemara dans l'Yerushalmi. La Gemara, elle dit, il y a des hommes, c'est des chassid choté. Chassid choté, ça veut dire, le monsieur, il se croit être un chassid, genre être quelqu'un de pieux, mais en fait, c'est un chassid choté, c'est un idiot. C'est qui le chassid qui est idiot ? La Gemara, elle donne plusieurs exemples. L'un des exemples, elle dit, c'est un homme qui est avec ses tefilines, qui voit quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve, et qui se dit, mais attends, je ne vais quand même pas plonger dans le fleuve avec mes tefilines, il faut un petit peu d'honneur à mes tefilines quand même, gros de tefilines, ils vont s'abîmer dans l'eau. L'encre, elle va s'abîmer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, bon, juste d'abord, je plie mes tefilines, enfin, déjà, je ne vais pas les laisser déplier, ce n'est pas kavod. Je plie mes tefilines, après, je vais sauver la personne. Le temps qu'il plie ses tefilines, évidemment, la personne a eu le temps de mourir. Ça, c'est un chassid choté, c'est un idiot. Ce n'est pas un chassid, c'est un idiot. En se cachant derrière, soi-disant, de la chassidoute, moi, j'honore mes tefilines, etc. Voilà ce qu'il fait. Eh bien, le Rav, il disait, dans notre génération et dans une génération dans laquelle les gens ils sont en train de se noyer, il y a tellement de frères à nous, de sœurs à nous qui sont en train de se noyer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, attends, je vais retirer mes tefilines, attends, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai machin, j'ai ceci, j'ai cela. Il dit, mais plonge avec tes tefilines. Si tu ne plonges pas avec tes tefilines, tu es un chassid choté. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose. Vraiment, je vous dis, entre nous, pendant longtemps, j'ai eu une question sur le Rav Bakshi Doron. On a le droit d'avoir des questions. Il ne faut pas que les questions elles fassent qu'on pense qu'on est plus intelligent que les autres. Mais des questions, on a le droit d'avoir. J'avais une question. Je savais que le Rav Bakshi Doron, sans arrêt, il disait à ses élèves, vous étudiez, après allez être rabbanim. Allez donner des cours. Allez, rapidement, faites la rabbanout, dayanout, machin, allez donner des cours. Et on me disait aussi que dans ces kolelim, c'est comme ça. Ils voulaient que pendant quelques années, on étudie, et qu'après, ils ne voulaient pas garder des avrérim jusqu'à 60 ans, 70 ans, des avrérim avec la barbe blanche. Non, ils voulaient que les gens étudient, quelques années, ils connaissent, après, ils vont donner des cours. Et puis, ça suffit, plus de kolel. À chaque fois, je me demandais, la façon litaïde de raisonner, en général, n'est pas comme ça. La façon litaïde, c'est de dire, reste avrère jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Si tu peux en plus enseigner, tant mieux. Mais ça va, même d'être avraire jusqu'à 90 ans, c'est quelque chose de très bien. Toute la journée étudier la Torah, c'est quelque chose de très très bien. Et à chaque fois, je disais, pourquoi ? Pourquoi au bout de 8 ans, il renvoie sa avrérim, genre pour vous n'avez qu'à être rabbanim ? Ça, il n'y a pas qu'être rave sur Terre. Pendant des années, je me demandais, pourquoi ? Et à chaque fois, il disait à ses élèves, allez être rabbanim, allez donner des cours, et allez. Et comme elle disait tout à l'heure, Madame Journeau, elle m'a écrit sur un mail, elle dit qu'elle est sûre que le Rav Bakshi était très fier de moi, que je donne beaucoup de cours, etc. Mais c'est vrai, pas que de moi. Tous ces élèves qui allaient donner des cours, tous ces élèves qui allaient faire des choses, qui répondaient à des questions, c'était sa joie la plus grande, que ces élèves, enfin, puissent commencer. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et maintenant, j'ai compris. Parce que le Rav Bakshi Doron, bien sûr qu'il était conscient de la beauté d'étudier la Torah même à 90 ans. Bien sûr qu'il était conscient de la beauté que c'est de pouvoir aider un avraire à étudier pendant des années et des années. Simplement, le Rav, c'est autre chose. Le Rav, il disait, il y a tellement de gens qui ont la soif de Torah. Il y a tellement de gens qui ont besoin de vous, vous les étudiants, vous qui savez étudier, vous qui savez c'est quoi l'Ashkafa de la Torah. Allez-y, allez enseigner la Torah. Et c'est par conscience de la nécessité que les gens doivent écouter la Torah que le Rav, à mon avis, faisait cette chose-là. Il avait la Ahava du Klal Israël. Jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé d'aller à la Lishka. Il avait un endroit dans lequel, un bureau dans lequel il recevait les gens. Jusqu'à la fin de sa vie, je me rappelle, parfois il était fatigué. Parfois pour le lever de la voiture au fauteuil roulant, il fallait le porter comme ça. Et le Rav, c'est très dur et machin. Il le faisait. Pourquoi ? Pour recevoir des gens. Il y a des gens qui avaient besoin de ses brachot, il y a des gens qui avaient besoin de ses conseils. Jusqu'au dernier moment, il le faisait. On pouvait toujours parler avec lui, toujours, par téléphone, à la Lishka. Je me rappelle, moi, à chaque fois que je lui demandais est-ce que je peux venir vous voir, par exemple, quand j'avais des enfants auxquels il fallait faire la chalaké, il fallait recouper les cheveux. Donc, j'appelais le Rav à la maison et il me dit, là où tu veux. Tu veux, tu peux venir à la maison de telle heure à telle heure. Tu veux, tu peux venir à la Lishka de telle heure à telle heure. Toujours, il m'était à l'aise. Je me rappelle une fois, j'ai pris un enfant, c'était un vendredi. J'ai pris mes enfants pour la chalaké. Le rav, il m'a dit, reviens à telle heure. Maintenant, il y a eu un problème d'une dernière minute, on a raté le bus, je ne sais plus exactement quoi. On était en retard. J'ai appelé le rav, je suis désolé, rav, j'ai avoir 5 minutes de retard. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé, je lui dis, je suis désolé, désolé, désolé. Il m'a mis à l'aise, il m'a dit, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout, c'est nécessaire, à col top. Pour l'instant, j'étudie la Torah. Ben, tout le temps, il mettait les gens à l'aise. Quand on venait pour faire la chalaké, le rav, il prenait son temps, il faisait une bracha à l'enfant. Après, la rabbanite, elle amenait un paquet de bonbons pour l'enfant et pour les frères et sœurs qui étaient venus. Toute façon tellement agréable pour donner l'amour de la Torah à tout le monde. Et c'était vraiment, je me rappelle une fois, le rav, il était très fatigué. Et c'est à l'époque où il marchait encore. Mais il était déjà très fatigué, il avait eu déjà un accident, etc. Et un Shabbat, il y a quelqu'un du quartier de Givat Shaul, là où j'habite à peu près, qui voulait que le rav soit Sandak. La Brit Mila, c'était Shabbat. Maintenant, il y a eu toute une grande histoire. Moi, comme j'étais assez proche du rav, j'étais au courant. Le rav, il voulait absolument accepter cette mitzvah pour faire plaisir au père du bébé. Et la rabbanite, la deuxième femme du rav Bakshi Doron, la femme actuelle, la rabbanite, elle a dit, non, tu n'es pas en état de santé pour pouvoir marcher maintenant. De Baït Vagan, ils habitaient le rav à Baït Vagan, Rajwan pour le rav à son âge, de Rehov Rajwan jusqu'à Givat Shaul, c'était au moins 40-45 minutes de marche. Le rav dit, mais si, je peux aller. Elle lui dit, non, tu ne peux pas, tu n'es pas en état, tu ne peux pas. Bref, le rav était très embêté. J'y vais pas, mais lui, j'ai envie de lui faire plaisir. Qu'est-ce que je fais? Finalement, il a passé tout Shabbat, lui et sa femme, chez son frère, le frère du rav Bakshi Doron, il habite à Givat Shaul. Il a passé tout Shabbat chez son frère pour pouvoir être là-bas dans la Brit Mila, or qu'il était déjà âgé et fatigué, etc. Tout pour toujours essayer d'aider les gens. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous donner une grande leçon. Ils l'ont dit aujourd'hui dans Salevaya, les rabbanim, son fils en particulier, il a dit que le rav, il était toujours au service du tzibour. Et il dit que le rav, il passait son temps à dire, être rav, c'est pas un métier, être rav, c'est pas un salaire, être rav, c'est pas qu'une vocation, être rav, c'est être là pour sauver le tzibour de la faute, sauver le tzibour de la hitbolelout, de tout type de mauvais courants et de mauvaises choses. C'est ça le but du rav. Et le rav, sans arrêt, ressentait ça. J'ai un devoir. Être rav, ce n'est pas qu'un plaisir. Je donne un cours, tout le monde vient m'écouter. Non, être rav, c'est un devoir. J'ai des élèves, il faut que je les honore. Et le rav, il disait aussi, le rav Bakshi Doron, il disait aussi que le soir du Seder, il y a 4 enfants. On les connaît. Le Chacham, le Tam, le Sheino Yodea Nishol et le Racha. Le Rav, il disait que chacun des 4 enfants se trouve à la table du Seder. Vous avez remarqué, on n'a pas dit, bon, le Racha ne nous intéresse pas, allez, on ne parle que du Chacham, on ne parle que du Tam. Non, on parle de tout le monde. On parle aussi du Racha. Le Rav Bakshi Doron, il disait, c'est important que le Racha, il soit aussi à la table du Seder et que le père s'adresse à son fils Racha. Écoutez un peu la beauté de l'idée. Le Rav, il disait, faut jamais désespérer de personne. Tu vois quelqu'un, il t'a l'air d'être racha, et tu vois qu'il commence à être mechalel Shabbat, et tu vois qu'il se comporte n'importe comment, il ne respecte pas la pureté familiale, il parle n'importe comment des talmidei chachamim, machin. Ne te désespère de personne. Parle à chacun. Parle le langage qu'il est capable de comprendre. Parle, et tu verras que toute personne peut réussir dans sa vie, qu'on peut réussir à le récupérer en quelque sorte. Et ça, c'était aussi l'amida de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était Oev Shalom, Rodev Shalom. Aaron HaKohen était capable de voir le bien chez tout un chacun. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et avec tout ça, on a parlé longuement de Torah, Avoda, Gimilut Chassadim, un homme qui excellait dans tout ça. Et avec tout ça, on aurait pu quand même s'imaginer qu'il soit un minimum orgueilleux. Attends, se lever tous les matins honnêtes, être là pour le tzibour, faire tout ça. Au moins, il mérite un peu d'orgueil. Avec tout ça, il avait le rav, une anava, une modestie vraiment, vraiment, vraiment inégalable. Inégalable. Je vous donne quelques petits exemples. Le rav Bakshi Doron, à chaque fois qu'il était invité, par exemple, pour une choupa, il arrivait à l'heure. Son chauffeur lui disait, mais kvodarav, vous ne pouvez pas arriver à l'heure. Un rav arachi n'arrive pas à l'heure. Si vous arrivez à l'heure, alors et vous allez devoir attendre le khatan et la kala et le machin. Et à chaque fois, il disait, moi, on m'a dit que c'était à telle heure, je viens à telle heure. À chaque fois. Et je vous dis, moi, je l'ai vécu moi-même. Il était le sandak de mon fils, Baruch HaShem, j'ai eu ce mérite, de l'un de mes enfants. Il était sandak, On lui a dit, c'est à telle heure. Il est arrivé. Le Moël n'était pas encore là. Aucun problème. Il est venu, il s'est assis, il a commencé à lire ses Tehillim, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont venus lui poser des questions. Moi, j'ai parlé un petit peu avec lui de sujets qui m'intéressaient. Et voilà. Mais il était à l'heure. Alors, quand on lui a demandé, mais pourquoi tu es à l'heure? Il disait, parce que moi, je ne veux pas qu'on m'attende. Qui suis-je, moi, pour que les gens ils m'attendent? Je ne veux pas qu'on m'attende. Moi, je suis pour le Tzibour. Donc, il est hors de question qu'on m'attende. Ça, c'est une très, 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 très grande modestie. À chaque fois que je l'appelais, et si c'était avec moi, c'était sûrement avec tout le monde, à chaque fois, il disait, comment vas-tu? Toujours. Avant de commencer, oui, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le temps. Comme il y en a qui diraient, c'est Picouar Nefesh ou pas, sinon je ne te réponds pas. Comment ça va? Tu vas bien? Tout va bien? Pourtant, chaque minute était comptée. C'était un rave qui passait beaucoup, beaucoup d'heures à étudier la Torah. Et pourtant, à chaque fois, il commençait comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il a été enterré aujourd'hui de façon très, très sobre. Très, 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 très sobre. Un rave de cette dimension-là, il aurait dû avoir des milliers de personnes qui participent à sa levaya. Mais à cause du corona et de toute la situation, il n'y avait personne. Il y avait 10 personnes, que les enfants poussent avec des masques. Les rabbanim, ils ont parlé avec des masques. Et il y a eu une toute petite levaya, toute petite. Il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi sur, en direct de leur ordinateur, etc. Mais il a eu une toute petite levaya. Parce que ce rave-là, c'était un homme gigantesque qui a toujours voulu la sobriété, qui a toujours voulu la modestie. Et bien même sa levaya, elle a eu lieu dans la modestie. Et dans sa tzava'a, dans son testament, il n'a pas demandé qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent. Il a demandé une chose. Quand on prend mon corps, j'aimerais que les enfants, des Talmud et Torah, ils récitent le pasuk Yoshev et Sefer Elyon. Il y croyait, lui, le Rav, en la gdoucha des enfants. Et il souhaitait ça. Le Rav, il avait aussi une autre mida, c'était aussi la mida de Aaron, comme il écrit dans les Midrashim, la mida du Emet, la mida de la vérité. Pour le Rav Bakshi, la vérité, ça passait avant tout. Ça s'est traduit dans plein, plein, plein de domaines dans sa vie. Vous savez, être grand rabbin d'Israël, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, pour prendre un exemple récent, puisqu'on est dans Pessah, le papouchado, le fameux gâteau, la matzah Ashira. Ben, le Rav Bakshi, il a écrit une longue tshuva, extrêmement claire, avec tous les arguments. Il a aussi interrogé des chimistes et des machins pour comprendre comment ça marche le chametz et comment ça marche et ceci et cela. J'ai fait un cours sur mon site à propos de la matzah Ashira, où je reprends pas mal d'arguments que le Rav amène. Et il arrive à la conclusion que pour lui, ça sourd. Ça sourd à Pessah de manger de la matzah Ashira. Maintenant, le Rav Bakshi était quand même assez soumis au Rav Ovadia Yosef. Je trouve que c'est Rav Ovadia Yosef qui lui a permis de devenir grand rabbin d'Israël. Ok, et le Rav Ovadia Yosef lui l'a autorisé la matzah Ashira. Mais le Rav Bakshi lui l'a interdit. Lui il dit, j'aimerais bien autoriser, mais j'ai tous les arguments face à moi pour interdire. Donc j'interdis. Ça lui a coûté cher. Le Rav Ovadia s'est fâché contre lui à un moment donné. Mais pour lui, le plus important au Rav, c'était de dire le Emet. Ce qu'il pensait être le Emet, il le faisait. Le Rav, il faisait tout ce qu'il faisait avec modestie et avec énormément de l'Echem Shamaim, comme je vous disais. Tous les Shem Shamaim, dans sa démarche, tout ce qu'il faisait, c'était Shem Shamaim. Jamais la question, c'était qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça ne m'apporte pas. Je l'ai vu dans des tas de choses. Il n'allait pas dans des endroits par rapport simplement à ce que ça va lui apporter. Il allait dans des endroits pour savoir comment lui, il pouvait apporter aux gens. Et dès qu'il pouvait apporter à quelqu'un, il venait et il passait du temps. Le Rav, on lui a proposé, et ça aussi, je l'ai entendu de sources très, très sûres, une fois que le Rav Ovadia est décédé, Aryeh Deri est venu le voir. Il lui a proposé d'être lui maintenant le leader de chasse, après le Rav Ovadia. Le Rav a dit non, je refuse. Il n'a vraiment pas voulu rentrer dans ça. C'était un homme qui faisait ce qu'il faisait, les Shem Shamaim. J'aimerais terminer, Bezrat Hashem, ces petits propos avec une petite idée. Vous savez que malgré tout, c'est la fête, on doit se réjouir. On va rentrer, Bezrat Hashem, dans le Shvi'i Shel Pessah. On va rentrer dans le septième jour de la fête de Pessah, le jour où il y a eu la Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer Rouge. J'aimerais vous dire très rapidement un petit enseignement et à nouveau essayer de relier ça au Rav Bakshi Doron. Il y a écrit, au moment de la déchirure de la mer Rouge, il y a écrit que les Bnei Israël, ils ont commencé à crier. Que Kadosh Baruch Hu leur ouvre la mer, que Kadosh Baruch Hu fasse quelque chose. À ce moment-là, il y a écrit dans le Passouk que Hachem s'adressait à Moshe et il lui dit « Matitzak Elai, pourquoi tu cries ?»« Daber el Bnei Israël, veïsaou » parle au Bnei Israël et qui voyage, qui traverse la mer. Et le Midrash, il dit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a voulu dire à Moshe, c'est pas le moment de prier. Il y a des moments pour chaque chose. Il y a des moments pour prier et des moments pour agir. Qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier. Maintenant, traverser la mer. Alors, le Roi Chaim, il pose plein de questions, le Roi Chaim à Kadosh. Et c'est quoi, c'est pas le moment de prier. Le juif, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans une galère? Eh bien, il prie. C'est quoi, c'est pas le moment? C'est le moment. Plus la galère est grande, plus il faut prier. C'est quoi, c'est pas le moment de prier? Et qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il leur dit passer dans la mer, mais la mer, elle est encore fermée. Alors, c'est quoi, passer dans la mer? Tu veux qu'on se tue? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le roi Chaim HaKadosh, il y a encore quelques questions. C'est pas maintenant le moment de trop s'allonger. Mais en un mot, il dit la chose suivante. Il dit que, on sait très bien que les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils sont arrivés à un état d'impureté dramatique. Quasiment comme les Égyptiens. C'était quasiment impossible de faire la part entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Midat Adin et la Midat Arachamim. La Midat Adin, c'est la rigueur. C'est visiblement, indéniablement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La Midat de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, contre toute l'humanité. Et il y a Midat Arachamim. Midat Arachamim, c'est quoi? La miséricorde. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Et il accepte, et il pardonne, et il est longanime, et tout ce qu'on veut. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu a décidé qu'allait agir sa Midat Adin ou Midat Arachamim? Qu'est-ce qui va décider? Qu'est-ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu se comporte plutôt Midat Adin ou plutôt Midat Arachamim? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, dit le Rahaim Akadosh, il a créé de cette façon-là. Que lorsqu'on fait des mitzvot, ça emmène vers nous la Midat Arachamim. Quand on commet des averot, ça emmène vers nous la Midat Adin. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Les Bnei Israël, pendant des années en Égypte, ils ont perdu beaucoup de leur foi. Ils ont perdu beaucoup de plein de choses. Ils ont même presque fait de l'idolâtrie, et bien certains, etc. Ils étaient à un niveau lamentable. Ils arrivent devant la mer et la mer refuse de s'ouvrir. Pourquoi la mer refuse de s'ouvrir? Il y a écrit dans le Chazal que les anges, ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, pourquoi tu veux qu'on leur ouvre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les Égyptiens? Eux, ils font Avodah Zarah, eux, ils font Avodah Zarah. Eux, ils font des Averot et eux, ils commettent des Averot. Pourquoi? C'est pas juste. À ce moment-là, dit le Rahaim à Kadosh Baruch Hu était endetté. Parce qu'il avait envie que la mer s'ouvre en faveur des Bnei Israël. Mais il était dans l'impossibilité de pouvoir l'ouvrir. Kabiachol, pourquoi? Parce qu'Hachem lui-même a décidé que lorsqu'il y a autant de mitzvot que de Averot, ou que quand il y a plus de Averot que de mitzvot, c'est Midat Adin. Donc, impossible d'ouvrir la mer. Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même était embêté. Il ne savait pas, en quelque sorte, il ne savait pas quoi faire. Moshe, il vient, il prie. Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Hachem lui dit, mais à quoi ça sert de prier maintenant? Maintenant, ce n'est pas le moment de prier. Pourquoi tu pries? Pour que j'ouvre? Mais moi aussi, je veux ouvrir. Mais je suis empêché, regarde. Les anges, ils me rappellent la règle du jeu dans laquelle j'ai créé le monde, à savoir que on ne peut faire preuve de Midat Arachamim que lorsqu'il y a beaucoup de mitzvot. Il y a une chose qui va pouvoir maintenant très très rapidement vous donner un mérite considérable. C'est quoi? C'est la Emouna. Parce que la Emouna, c'est la base de tout. Et la Emouna, c'est la chose la plus importante. Dit le Akadosh Baruch Hu à Moshe, priez, mais ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de Emouna. Vous allez traverser la mer Rouge alors qu'elle est encore impétueuse et agitée et tout, en ayant confiance que puisque moi j'ai dit, eh ben c'est qu'il faut passer, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et cet acte-là de bravoure et de courage, c'est lui qui va être quelque chose de tellement considérable que grâce à ça, eh ben vous aurez le droit qu'on ouvre la mer Rouge. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'Hachem dit à Moshe, c'est pas le moment. Maintenant, il faut faire un acte de Emouna grandiose. Et c'est ce qui s'est passé. Cette idée-là du Or HaChaim vient nous rappeler quelque chose. Nous, on est dans un monde de ségoulottes. On aime les ségoulottes, une ségoula pour ceci, il va écrire un Sefer Torah, va dire les Ketoret, va faire ceci, va faire cela. On comprend là qu'il y a une situation grave en ce moment. On comprend qu'il y a tellement de gens qui nous quittent. Le Rav est décédé de la Corona, tellement de Rabbanim, le Rav Ramou est décédé de la Corona. Aux États-Unis, des dizaines de Rabbanim sont décédés de la Corona. Et il y a des tas de Juifs, des centaines de Juifs qui sont décédés dans toutes les communautés, un tel est décédé, un tel. Et des Goïms, je ne parle pas combien de gens. On sent ici qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est possible de croire qu'Hachem il a envoyé tout ça que pour qu'on fasse des ségoulottes et qu'on écrive des Sifrei Torah? Moi, personnellement, je ne pense pas. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on agisse. Une ségoula, je ne pense pas que c'est plus que de crier, que d'aber, que Vaïtsakou. Ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on agisse. Et le Rachaim, il vient nous rappeler. Il y a des moments où il faut agir. Et c'est grâce à nos actes qu'il y a la bracha. On veut avoir la bracha, elle dépend de nous. Ni les mekoubalim, ni les machins, ni les trucs, rien. Nous, qu'on agisse, qu'on accomplisse la Torah et les mitzvot comme il faut, c'est ça qui donne des mérites. Et quand il y a des mérites, il y a Midat Arachamim. Et quand il y a Midat Arachamim, la mer, elle s'ouvre en deux. Quand il y a Midat Arachamim, tout peut bien se passer. Mais ça, c'est une leçon que le Rav Bakshi Doron, il m'a enseignée. Je me rappelle qu'il était venu une fois à un gala, et c'était lors de la paracha de Berukotai. La paracha de Berukotai, c'est la paracha dans laquelle il y a ou les bénédictions ou les malédictions. Tout dépend si on suit les commandements de la Kadosh Baruch Hu ou pas. Le rabbin qui avait invité le Rav Bakshi Doron, c'était en Israël, ce gars-là, il avait dit, voilà, on a le mérite d'avoir avec nous le Rav Bakshi Doron. Alors le Rav, il va nous faire une bracha pour que nos institutions réussissent et fleurissent, etc., etc. Je me rappelle comme si j'étais, ça remonte il y a des années et des années. Le Rav, il a pris le micro et il a dit, écoutez, on me demande à moi de bénir l'institution pour qu'elle réussisse. Qui suis-je? Qui suis-je moi pour bénir? Il dit, on est dans la parashat Bechukotai. Dans la parashat Bechukotai, Akadosh Baruch Hu lui-même, il promet les brachot. Im Bechukotai Telechu, si vous suivez mes préceptes et mes commandements, eh ben moi, Hachem, je vous enverrai la pluie, je vous enverrai la parnassa, je vous donnerai la réussite, je vous donnerai ceci et cela. Il n'a pas besoin de moi. Hachem, il est prêt à donner la bracha. Quoi? En agissant, en accomplissant. Et ça, c'est un message important. Chaque juif, il a son petit quelque chose à faire, qui va pouvoir rajouter énormément et qui va pouvoir faire que les choses fonctionnent. Je termine en disant, si vous le voulez bien, un autre enseignement que j'ai entendu du Rav. Le Rav, il dit qu'on disait de Sarah que quand elle avait 100 ans, elle était comme quand elle avait 20 ans. À 20 ans, elle était belle. À 100 ans, elle était belle comme à 20 ans. Et elle n'avait pas de faute, etc. Alors, le Rav, il a dit, si on réfléchit bien, c'est quoi le Tehilim 100? Le Tehilim 100, c'est le Tehilim dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu. Le Tehilim 20, vérifiez, c'est le Tehilim dans lequel on supplie Akadosh Baruch Hu, donne-nous, sauve-nous, protège-nous, etc. Dit le Rav, une fois, il y a une voisine qui avait besoin de marier sa fille, etc., etc. Et elle avait promis, moi je vais 40 jours au Kotel consécutif pour prier pour que ma fille se marie. Elle a été 40 jours, le 40e jour, Baruch HaShem, sa fille, s'est fiancée. Tov, Baruch HaShem, bonne nouvelle, c'est goula, tfilot, machin. Le 41e jour, le Rav Bakshi dit, on rencontre cette dame-là, prend sa voiture, visiblement, à l'heure habituelle, direction Kotel. Alors le Rav, il lui dit, j'ai pas compris, t'as une autre fille maintenant à marier? Alors il dit, mais non. Alors, il dit, pourquoi? T'as dit 40 jours, tu vas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire encore au Kotel? Il dit, bah, écoutez, votre arabe. De la même façon que j'ai été 40 jours pour supplier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la réussite, maintenant, pendant 40 jours au moins, il faut que j'aille pour remercier à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la réussite. Il dit, le Rav, c'est ça, bat kouf ke bat kaf. Le Tehilim du remerciement, dis-le avec autant de cœur, avec autant de joie, avec autant de conviction que le Tehilim quand tu es dans la difficulté que tu implores à Kadosh Baruch Hu. Et le Rav, je peux vous dire, qui vivait toujours, toujours, toujours avec ça. J'ai été le voir plusieurs fois quand il se sentait déjà très mal. Parfois, il était vraiment fatigué. Il s'endormait pendant la tefila, il s'endormait pendant plein de choses. Il était très, très, très fatigué. À chaque fois que je lui demandais « Comment allez-vous ?», il me disait « Baruch HaShem » avec un petit sourire, parfois un plus grand sourire. À chaque fois « Baruch HaShem, ça va, Baruch HaShem, ça va aller, Baruch HaShem. » À chaque fois, toujours, il n'allait pas bien, il était fatigué, il ne pouvait plus étudier tellement. Mais « Baruch HaShem, Baruch HaShem ». Et les gens, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà vu le Rav Bakshi, ils m'ont dit que l'impression qu'ils ont quand ils voient le Rav Bakshi, c'est une impression de calme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la photo, je ne sais pas si vous le verrez, mais calme. Quand il parlait qu'une toute petite voix, une voix très calme. Toujours, tout ce qu'il faisait dans sa vie, très calme. Il était très aride, très empressé, il marchait vite quand il marchait, mais toujours très calme, tout très calme, tout était calme dans sa tête. Jamais il te donnait l'impression que tu es trop pressé, que tu le dérangeais, que tu ceci et cela. Mais ça, c'est le Rav Bakshi. Comment il a pu, alors que ça allait tellement mal, à chaque fois dire « ça va, Baruch HaShem, ça va, Baruch HaShem ». Comment ça se fait? C'est parce qu'il vivait, à mon avis, avec cette dimension qui est celle de « bat kouf ke bat kaf », toujours essayer de se concentrer sur le bien. Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va mieux? Et à chaque fois, il se concentrait sur ça. Et grâce à ça, il a pu, Baruch HaShem, toujours réussir à bien se sentir. Et il a été un véritable exemple pour beaucoup de gens. Personnellement, pour moi, il a été un très, très, très grand exemple. Et j'ai énormément, énormément appris de lui. J'ai beaucoup, beaucoup de Hakarat HaTov parce qu'il était toujours là quand j'ai eu besoin de lui pour des questions de halakha, pour des conseils. Il a toujours eu des conseils perspicaces, des très, très, très bons conseils qui se sont avérés même après être des très bons conseils. On m'a proposé une fois d'être rav dans un autre quartier de Yerushalayim. J'ai été le voir, je lui ai demandé conseil. Il m'a conseillé comment faire, comment ne pas faire, ne pas m'emballer, ne pas ceci, ne pas cela. Baruch HaShem, je lui dois beaucoup, beaucoup au Rav Bakshi Doron. Et j'aimerais, Bezrat HaShem, demander au Rav Bakshi Doron qui prie en notre faveur, lui qui a toujours tellement, tellement prié pour le Klal Israël, qui prie en faveur du Klal Israël, parce qu'on a en ce moment tellement, tellement besoin de ses prières et des prières de tous les tzadikim, Bezrat HaShem, Sroto Yagen Aleno, Amen.